Audiolib présente Va et poste une sentinelle de Harper Lee, lu par Cachou Kirsch. À la mémoire de Mr. Lee et d'Alice. Première partie. Chapitre 1. Depuis Atlanta, elle regardait défiler le paysage par la vitre du wagon-restaurant avec une exaltation presque physique. Devant son café, au petit-déjeuner, elle vit s'éloigner les dernières collines de la Géorgie et la terre rouge apparaître, avec ses maisons aux toits en tôle posées au milieu de petits jardins bien entretenus, et dans ces jardins, l'inévitable verveine qui poussait, cernée de pneus blanchis à la chaux. Elle sourit en apercevant sa première antenne de télévision au sommet d'une maison des quartiers noirs en bois brut. Bientôt, elles se multiplièrent et sa joie s'intensifia d'autant. Jean Louise Finch prenait la voix des airs d'habitude, mais pour le cinquième de ses retours annuels au pays, elle avait décidé de faire le trajet en train de New York à Macomb Junction. D'abord, elle avait eu une frousse bleue la dernière fois qu'elle était montée à bord d'un avion. Le pilote avait décidé de foncer droit dans une tornade. Et puis prendre l'avion aurait forcé son père à se lever à 3 heures du matin et à faire 150 km de route pour venir la chercher à Mobile, le tout avant d'enchaîner sur une journée de travail. Il avait 72 ans, elle ne pouvait plus lui imposer ça. Elle était heureuse de sa décision. Les trains avaient changé depuis son enfance et cette expérience inédite l'amusait. Un employé de la compagnie ferroviaire apparaissait, tel un gros génie, dès qu'elle appuyait sur un bouton. Un petit lavabo escamotable en acier brossé surgissait à volonté, et il y avait un cabinet de toilette sur lequel on pouvait reposer les pieds. Elle avait résolu de ne pas se laisser intimider par les diverses mises en garde placardées un peu partout dans le compartiment, ou la chambrette, comme ils appelaient ça. Mais quand elle était allée se coucher, la veille, elle s'était débrouillée pour se retrouver coincée dans sa couchette rabattable parce qu'elle avait omis de pousser ce levier vers le bas et le contrôleur avait dû venir la tirer de cette fâcheuse posture, ce qui l'avait mise dans un certain embarras dans la mesure où elle avait pour habitude de ne dormir qu'en haut de pyjama. Par chance, il était justement en train de patrouiller dans les coursives au moment où le piège s'était refermé sur elle.
« Je vais vous sortir de là, »
dit-il en l'entendant cogner des poings contre la paroi. « Non, non, je vous en prie, » répondit-elle. « Dites-moi simplement comment m'y prendre. »«
Je pourrais vous aider en tournant le dos, »
dit-il. Et c'est ce qu'il fit. À son réveil ce matin-là, le train entrait en cahotant dans les faubourgs d'Atlanta, mais obéissant à une autre instruction affichée dans le compartiment, elle resta au lit jusqu'à ce qu'on arrive en vue de College Park. Quand vint le moment de s'habiller, elle mit sa tenue de Macomb. Pantalon gris, chemisier noir sans manches, socket blanche et mocassin blanc. Il restait 4 heures de voyage, mais elle entendait d'ici le petit reniflement désapprobateur de sa tante. Alors qu'elle attaquait sa 4e tasse de café, le Crescent Limited fit retentir son sifflet, telle une oie géante, pour saluer le train qui arrivait en sens inverse, puis franchit la frontière de l'Alabama en traversant la Chattahoochee à grand fracas. La Chattahoochee est large, plate et boueuse. La rivière était basse aujourd'hui. Une barre de sable jaune en avait réduit le flot à un faible ruissellement. « Peut-être chante-t-elle quand vient l'hiver, » songea-t-elle. « Impossible de me souvenir d'un seul vers de ce poème. » Tandis que j'allais, jouant de mon joyeux flutio par les vallées? Non. S'adressait-il à une sauvagine ou à une sauvageonne? Elle s'efforça de réprimer un élan coutumier d'hilarité en pensant que le poète Sidney Lanier avait dû ressembler à son cousin depuis longtemps disparu, Joshua Singleton St. Clair, dont le propre territoire littéraire de prédilection s'étendait de la Black Belt à Bayou Labattre. La tante de Jean Louise érigeait souvent cousin Joshua en inébranlable parangon de la gloire familiale. C'était un homme d'une stature splendide.